Actu SF, les podcasts.
Donc, on va commencer. Bonjour à tous et à toutes pour cette table ronde sur le corps des machines. Merci d'être présents. Pour discuter de ce sujet avec nous, on a Laurent Genefort. Donc là, on ne le présente plus, l'un des rois du space opéra français. Sa dernière saga en date, c'est Spire, hein, chez Critique, sorti en poche récemment. Puis on a également avec nous Denis Bajram, donc scénariste et dessinateur de bande dessinée. Comme bande dessinée marquante, on peut évoquer Universal War numéro 1 et 2, donc récemment sorti. Les derniers tomes. Les premiers, ça fait longtemps.
Le premier, c'est 98, hein, donc récemment.
Et le dernier, c'est 2014.
Il y a trop longtemps déjà, 2014, je crois. Oui.
Bon, rapidement, quant à moi, je m'occupe de la revue Anticipation, dédiée au futur. Pour introduire ce sujet, on peut évoquer rapidement l'image du robot dans Battlestar Galactica, qui incarne vraiment le sujet dont on va parler aujourd'hui. Parce que dans Battlestar Galactica, on a des robots qui ressemblent trait pour trait à des êtres humains. On a même des robots sexualisés, très sexualisés, comme Six, par exemple. Six, si je ne me trompe pas. Mais paradoxalement, l'une des insultes que les humains font aux robots, c'est d'être traités de grille-pain. Ça pose bien la question de savoir en fait, comment on différencie l'humain de la machine et l'image qu'on a dans notre tête de ce qu'est finalement une machine. Est-ce que c'est un être, ça ressemble à un être humain ou est-ce que ça sera toujours un grille-pain? Laurent, finalement, comment est-ce qu'on peut différencier la machine d'un être humain?
Alors dans la SF, il y a eu plein de manières, enfin il y a eu plusieurs manières de le faire en fait, qui sont des manières finalement qui ont un rapport à l'essence des êtres, puisque finalement quand on se pose la question qu'est-ce qu'une machine ou qu'est-ce qu'un homme, donc qu'est-ce qu'une machine, donc qu'est-ce qu'un homme, c'est qu'est-ce que l'être, par quoi on peut se définir. Donc il y a eu plusieurs façons de le définir. Il y a eu la façon très classique qui est d'opposer l'artificiel et le naturel. Donc ça, c'est vraiment, c'est les automates, finalement, c'est la façon, c'est le RUR de Čapek. C'est si on est mécanique, c'est qu'on n'est pas humain. Il y a eu la façon d'opposer. Alors dans ce même truc, il y a aussi la forme anthropoïde. Donc ce qui ressemble à un humain est un humain. Donc ça, alors là, le cinéma a abondamment usé de cette analogie. Il suffit finalement de dépouiller le robot de son apparence humaine et il n'apparaît plus humain, il apparaît comme la machine qu'il est et il ne mérite plus le qualificatif d'être. Et souvent dans des films, ça va même de Terminator, hein, il suffit de voir, il brûle, il saute de sa chair et là c'est une machine, il n'y a plus de doute et on peut l'exterminer ou être exterminé par lui. Il y a des auteurs qui sont allés quand même plus loin que les Corses et qui ont été comme Gregory Benford dans son cycle de la rivière du ciel, la grande rivière du ciel, où lui il oppose dans tout le cycle la façon de penser analogique et la façon de penser numérique. Alors il le développe super bien, donc vraiment c'est un cycle vraiment génial, je trouve. Donc il y a cette opposition là. Mais et là, pour le coup, on peut commencer à se mélanger. On peut commencer à mélanger les deux premiers, puisque même à l'intérieur de son cycle, les humains ne sont plus tout à fait humains, puisqu'ils interagissent en permanence avec une sorte d'armure cybernétique, mais qui a des terminaisons nerveuses et qui les met en rapport avec des mémoires qui sont elles numériques. Donc les humains ne sont plus déjà tout à fait des humains. Et les machines se posent la question, elles, en fait. Elles cherchent à savoir ce que c'est que ce mode de pensée analogique, en fait. Et puis, il y a ça. Et puis, le versant un peu dickien aussi, c'est la dernière façon de différencier, je dirais que c'est la façon d'opposer le matériel et le spirituel, qui est une façon aussi classique et qui dérive de la toute première, mais on peut en faire quelque chose de plus fondamental et qui dépend plus de la matière, mais presque d'une position philosophique presque. Et à ce moment-là, ce qui est robotique, c'est ce qui relève du simulacre. Et on est un simulacre quand... alors, c'est ça qu'il faut définir à ce moment-là. Et c'est ce qui va définir la machine et le corps de la machine. C'est on est un simulacre quand on se comporte comme un robot. Donc, par exemple, quand on conduit une voiture et qu'on n'est plus qu'une masse de réflexes, finalement, à ce moment-là, est-ce qu'on est encore soi-même ? Est-ce qu'on n'est pas juste une extension de la voiture ? Et on peut réellement se poser la question comme ça, en fait. Mais aussi, quand on va au boulot le matin, quand on se comporte comme des robots, est-ce qu'on mérite encore le terme d'humain ? Voilà.
C'est le mythe de Pinocchio, où, en fait, est-ce que c'est un petit garçon ? Est-ce que c'est une marionnette qui se comporte comme un petit garçon ? Et on lui reproche souvent, finalement, d'être une marionnette parce qu'il se comporte comme une marionnette. Et quand il sera pleinement un petit garçon, il aura le corps du petit garçon à ce moment-là, réellement. Donc on voit bien que c'est la fonction crée le corps, parfois, autant que le corps crée la fonction, en effet. Oui,
ouais, c'est ça. Et comme la SF, elle est très, c'est un genre qui est très vertical, qui se... Il y a eu, moi j'ai l'impression, un mouvement comme ça de désessentialisation de la différence entre homme et machine, et finalement qui a précédé ce qui nous arrive aujourd'hui en fait. C'est-à-dire qu'on a externalisé nos mémoires, on a externalisé plein de choses dont on pensait que c'était l'apanage de l'humain, même des algorithmes maintenant qui font des choses qui ressemblent beaucoup à des activités humaines de haut niveau. Donc, c'est de plus en plus flou en fait.
Alors pourquoi est-ce qu'on continue à représenter souvent la machine comme un être humain, Laurent, ou peut-être plutôt Denis ? Est-ce qu'il y a une projection, une sorte de désir projeté dans la machine ?
Je trouve qu'on représente surtout la machine comme une machine en général quand même. Hein. Dans la culture la plus populaire, Star Wars en tête, le robot c'est un robot, il n'y a pas de doute, l'extraterrestre c'est un extraterrestre, enfin, tout est très genré comme ça de manière très forte. Le robot va de le robot humanoïde mais qui est incapable de bouger... correctement, jusqu'au robot qui parle même pas notre langue et qui ressemble à une, je sais pas quoi, un frigo,
une poubelle.
T'as une poubelle, oui, voilà. Ouais. Et le robot qui ressemble à un humain, c'est déjà dans une certaine science-fiction haut de gamme entre guillemets. C'est toujours pour aller convoquer justement la limite, que ce soit au cinéma. Hein, je parle pour la culture en public, mais même dans Alien, quand on a un robot qui ressemble à un homme, c'est bien pour interroger la survie de l'équipage, etc. J'ai l'impression qu'à partir du moment où on afflue le robot de traits humains, pleinement humain et complètement humain, c'est déjà pour interroger l'humanité en fait. C'est rarement pour le robot en lui-même.
Laurent parlait du flou qui est de plus en plus entre machine et être humain. Est-ce que on peut considérer que l'être humain pourquoi l'être humain veut-il de plus en plus ressembler à une machine ? Le transhumanisme est au cœur en ce moment de plusieurs tables rondes aujourd'hui. Pourquoi ce désir envers le corps de la machine ?
Il y a le côté contrôle freaks, hein, je pense. Hein. Être une machine, c'est pouvoir se réparer, c'est pouvoir remplacer les pièces qui ne marchent pas, c'est avoir des bugs, mais pas le cancer. Je pense qu'il y a quand même un certain inconscient comme ça de la prise de contrôle complète dans le destin, dans l'idée de se mécaniser. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais...
Ouais, et puis peut-être aussi, une évolution de les connaissances, même du cerveau, qui montre qu'on est, et plus on avance dans les connaissances du cerveau, plus on se rend compte qu'on est des machines vivantes, mais qu'on est des machines, qu'on obéit à des lois, qu'il y a des mécanismes, qu'il y a des mécanismes. Et un auteur comme Greg Egan, dès les années 90, il avait imaginé que vraiment un homme totalement programmable, et il a essayé tout au long d'un cycle de nouvelles d'essayer de dépouiller l'homme de tout ce qui pourrait être considéré comme purement humain et en dépouillant comme ça des caractéristiques soi-disant humaines, au centre, il n'y a plus rien en fait. Il n'y a plus rien. Donc à ce moment-là, c'est plus facile quand plus rien n'est identifié comme purement humain. Purement humain, quand il n'y a plus l'étincelle magique, à ce moment-là, on peut. C'est naturel de se rapprocher de la machine à ce moment-là.
C'est un questionnement qu'on voit très bien dans Star Trek, dans les différents Star Trek. Ouais. Il n'y a pas vraiment la question du robot au début. Le plus robotique, ça doit être Spock, qui est en fait un être raisonnable, qui représente la raison absolue sur pied, pas d'émotion,
par beaucoup de côtés, on lui reprocherait presque d'un grippin dans la série, en tout cas de ne pas être vraiment humain. C'est une créature à sang-froid. Dans Next Generation, on a Data, qui là est pleinement un androïde, et qui au début de la série est en apprentissage d'humanité, et dont on va suivre le progrès en humanité, comme ça, en tant que robot.
C'est sa quête personnelle, même.
Et alors, après, on a dans Voyager, on a carrément le premier, il y en a deux, en fait, personnages comme ça, mais le premier, c'est le docteur, qui est un hologramme. C'est qu'il y a la disparition du corps. On en est à retirer même l'imitation de la biologie que pour être un corps d'androïde. Il n'y a plus de corps, c'est un hologramme. Et il ne reste donc plus que cette apparence. Et alors, c'est amusant parce que c'est... Alors, au départ, c'est un docteur de secours, donc il est censé être allumé que s'il y a un pépin sur le vrai docteur. Il s'avère qu'il se retrouve envoyé au bout de l'univers sans docteur, qui meurt dès le premier épisode. Et cet hologramme a une personnalité très forte, parce que je pense qu'il est dans l'idée, quand il est programmé, c'est que le médecin, il arrive, il est autoritaire, il fait des blagues et l'affaire est réglée. Et il se retrouve avec cette identité très forte à rester allumé tout le temps. Et donc, on assiste à l'évolution d'un personnage qui n'a pas de corps, ce qui est quand même quelque chose d'extrêmement étonnant. Et en plus, dans la suite de la série, il dialogue avec Seven of Nine, qui est un Borg, donc un cyborg qui revient vers son humanité en étant dépouillé de sa technologie. Donc, on sent bien dans Star Trek, comme ça, à partir des années 60, une évolution de la question à la fois du robot, de la raison, de l'être parfaitement raisonnable, en effet, sans détaché de tout ce qui est la signature de l'humanité. Et du corps robotique, puis du corps holographique. C'est vraiment une question montante. Il n'y a aucun doute dans cette science-fiction-là.
Ouais, c'est une question montante. En plus de ça, dans les années, jusqu'aux années 90, le trouble identitaire du corps se cantonnait à l'univers virtuel, finalement. Voilà, on avait des hologrammes. On avait des choses comme ça. Et maintenant, des gens qui vont se cloner ou changer de corps de façon fluide, ou changer de sexe de façon très fluide, mais même d'une heure sur l'autre, on en trouve beaucoup en SF. Ça, ce qui était réservé à l'univers virtuel a contaminé le réel, et on pensait le réel, quelque chose qui résisterait à ça, et ça, non, pas du tout. Ça a été balayé. Ça a été balayé, et les prémices du transhumanisme, on le trouve là, en fait. On le trouve dans la contamination des modifications corporelles, mais pas seulement les modifications, aussi la duplication, la copie, l'amplification, l'altération d'une manière générale, en fait.
Vous parliez d'un rapprochement de la machine vers l'humain et d'un rapprochement de l'humain vers la machine. Si on estime qu'il y a un rapprochement de la machine vers l'humain, est-ce que la machine à un genre? Bon, est-ce que, par exemple, dans la science-fiction, il y a l'un des genres qui est le plus représenté lorsqu'il s'agit de créer des robots?
C'est sûrement le masculin, ça ne faut pas rêver. C'est comme nous, c'est-à-dire que les progrès restent à faire. Même le mot androïde, andro c'est homme, mais ça qualifiait, c'était un masculin neutre, comme dirait l'Académie française. Voilà. Il a fallu inventer un autre nom, gynoïde, etc. Mais androïde, c'était le mot, alors qu'en réalité, non, c'est un robot mâle.
Alors que le premier androïde représenté dans Métropolis est une femme.
Ouais.
C'est-à-dire qui va donner le dérivé 6PO en homme dans Star Wars. Donc on a une étrange appropriation masculine, encore une fois. De quelque chose qui était peut-être plus ouvert au démarrage. Quoi.
Et Denis, est-ce que vous imaginez une société où humains et robots se côtoieraient sans qu'il n'y ait aucune sensation de différence, presque avec un antispécisme dédié aux machines?
Oui, en préparant, je me faisais la réflexion, on entend beaucoup parler en ce moment de spécisme et antispécisme, entre autres avec les attaques de boucherie. Donc pour ceux qui ne le savent pas, le spécisme, c'est un décalque des idées du racisme, c'est-à-dire que de la même manière que des gens sont désignés par une race, les antispécistes disent qu'on désigne les animaux comme espèce et que c'est un acte négatif, que ce n'est pas neutre du tout. Et qu'on peut, donc face à ce spécisme, ils se disent antispécistes. Est-ce que cette question pourrait se poser avec nos machines? Est-ce que finalement, ce serait un racisme, un spécisme de dire que le robot est un robot? Ce serait le séparer de l'ensemble des êtres vivants, éventuellement même de sa part d'humanité, voire de son humanité complète? Est-ce qu'il n'est pas digne d'être dans l'humanité? C'est des vraies questions qu'on va être amené à se poser. Même aujourd'hui, qui aujourd'hui considère comme normal de frapper son chien? Mais on frappe son iPhone. si on comparait le QI d'un chien et d'un iPhone, ça dépend des critères, mais c'est pas sûr que le chien gagne à chaque fois, quoi. Donc frapper son iPhone parce qu'il répond mal, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça prépare comme société ? Qu'est-ce que ça prépare comme rapport à des machines plus intelligentes, voire conscientes, que de maltraiter, de faire voler son clavier d'ordinateur à travers la fenêtre, etc. C'est des vraies questions qu'on doit commencer à se poser aujourd'hui, parce qu'on est en train de préparer le racisme de demain aujourd'hui, en n'ayant aucun questionnement sur l'usage qu'on fait de nos outils savants.
Il faut dès maintenant une éthique envers les machines, si ce n'est même des lois. Faut-il dire s'il te plaît, par exemple, à Siri ou à Alexa ? Est-ce qu'il faut interdire à un enfant d'insulter son ordinateur, l'apprendre à être poli ?
Non, pas du tout. J'allais dire que c'est même pas la question. C'est-à-dire qu'il faut définir ce qui est objet ou pas, quoi. Faut juste avoir la distinction claire dans sa tête de ce qui est un être et de ce qui est un objet. Voilà, c'est tout.
Oui, mais c'est une question qu'on n'arrive pas à régler sur les animaux. C'est pour ça que je reprenais.
Non, tout à fait. Mais quand on voit dans Westworld, je trouve que Westworld est très intéressant là-dessus. Il pose réellement la question justement de la violence par la violence, justement de certains personnages qui sont montrés comme négatifs parce qu'ils tuent des robots, justement. Ces robots ont peut-être atteint la conscience, on n'en est pas sûr. Un état de conscience qui en fait des êtres, justement, mais on n'en est pas sûr. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est de montrer un personnage qui est montré comme un psychopathe, vraiment un fou, quoi, qui finalement est parfaitement cohérent avec ce qu'il fait. C'est-à-dire que lui, pour lui, les robots, ce sont des objets. Donc, il peut les torturer sans aucun problème, puisque ce sont des objets, ils ne ressentent rien en vrai. Donc il n'y a aucun problème. Mais finalement, cette logique est saine, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il tue des robots comme nous, on élimine des PNJ pour avancer dans un jeu vidéo, sans aucun état d'âme.
C'est la question de peut-on écraser une araignée ? Peut-on écraser un petit oiseau ? Peut-on écraser un pigeon ? Peut-on écraser une vache ? Peut-on écraser un chien ? Peut-on écraser un homme ? Il y a vraiment un problème à un moment, en effet, à fixer une limite à la violence qu'on peut faire et à ce qui est sentient ou pas. Une fourmi, ça sent rien par beaucoup de côtés.
Ça devient...
C'est un petit système, c'est une petite mécanique efficace, ouais, qui n'a de sens que dans sa fourmilière complète. Or, de fait, c'est...
L'enfer est dans les détails. C'est-à-dire qu'en en fait, c'est pas binaire. C'est pas être ou non-être. C'est une lente... c'est un continuum. Et à partir du moment où on fixe une limite, on détermine une morale, en fait. Donc c'est là où ça se joue. Tout le monde est moral. Le psychopathe dans Westworld, il est moral. Il est parfaitement moral. Il y a aucun problème. Il y a aucun problème avec sa moralité. Il élimine des robots comme nous, on froisse un gobelet en plastique une fois qu'il a servi. Voilà. Ça ne nous pose aucun problème moral. L'acte de froisser, lui c'est pareil. Et c'est pas, ça n'a rien de choquant. Là où la série ment et nous manipule, c'est qu'elle joue sur l'image. C'est-à-dire que ce sont des images d'hommes et de femmes et d'enfants. Donc à partir du moment où on nous montre des images d'enfants, d'hommes et de femmes, on va réagir comme si c'était des enfants, des hommes et des femmes. Et là, c'est une façon de nous manipuler qui est totalement régressive et qui existe depuis le XVIIIe siècle avec les automates, où se posait déjà il suffit de faire une statue, mais même les Grecs de l'Antiquité se posaient la question est-ce qu'une statue parce qu'elle ressemble à un homme, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'humain dedans, quoi ? Eh ben, Westworld, il joue sur ce petit bout de à l'intérieur de nous, ces réflexes cérébraux qui nous font croire que qui sont juste des trucs de reconnaissance d'image, ou quand on voit un homme, c'est un homme.
La question, est-ce que le robot souffre ?
Est-ce que le robot souffre ?
Est-ce que parce qu'il est programmé pour ressentir des choses et réagir en considérant que s'approcher du feu va le détruire, donc on programme un équivalent de la souffrance, et à l'inverse, des choses positives vont être programmées dans l'ordre du plaisir ? Est-ce qu'à partir du moment où on a fait ça, pour que ce robot soit un minimum d'autonomie, est-ce qu'à ce moment-là, on ne doit pas considérer qu'il souffre ? Et donc, à ce moment-là, lui faire du mal, est-ce que c'est ne pas faire du mal à quelque chose qui est capable de le sentir ?
Oui, mais ça nous renvoie juste à une optique behavioriste. Si on a une optique behavioriste, si on pince quelque chose et que cette chose, elle crie, c'est qu'elle a mal. Mais est-ce que c'est vrai ?
Bah, on n'en sait rien, mais...
Voilà.
Est-ce que nous-mêmes, nous ne sommes pas des machines, donc
ouais, voilà, exactement.
Donc, avec une évolution qui nous a programmés par expérimentation multiple jusqu'à obtenir ce résultat complexe. Mais nous-mêmes, on est des machines.
Il faut faire souffrir un iPhone. Il faut plonger un iPhone dans l'eau suffisamment longtemps. Il faut le ressortir, il faut le replonger. Voilà.
Il n'est pas programmé pour.
Et après, il faut voir s'il devient fou.
Ben ça, en général,
non, mais je veux dire, il faut faire des il faut expérimenter.
Il y a un épisode de Star Trek Voyager, justement, toujours avec ce docteur, où il est pris dans une boucle.
Ne le faites pas, hein, en fait.
Il est pris dans une boucle logique, parce qu'en fait, il doit choisir, il ne peut pas sauver deux membres d'équipage, et il fait un choix, et il s'aperçoit après qu'il a fait un choix parce qu'il en a un qu'il préfère. Parce que c'est celui qu'il a vu le plus souvent à l'infirmerie, etc. Il s'est attaché, malgré le fait qu'il soit un programme, et c'est en contradiction avec sa mission de docteur, qui est de surtout pas faire ça. Et alors, il rentre dans une boucle logique, et on s'aperçoit qu'il est en train de devenir fou. Et alors, l'équipage se trouve face à un dilemme, parce qu'en fait, il commence à avoir une vraie personnalité, quand même, ce docteur. Est-ce qu'ils doivent le reprogrammer, ce qui revient à charcuter son cerveau, ou est-ce qu'ils doivent le soigner ? Et le capitaine veut le reprogrammer, ils le font, ça rate, enfin, c'est... Et à la fin, l'épisode se termine de manière très étrange, où on voit ce docteur holographique, qui est dans une sale période de sa vie, et avec des membres de l'équipage qui le veillent, qui discutent avec lui... pour essayer de le corriger, pour l'aider comme un humain, on l'aiderait, c'est-à-dire en l'accompagnant, en l'aidant à passer au-delà de cette étape. Et j'avais trouvé que cet épisode était assez fort sur la question de « ça aurait été tellement plus facile de reprogrammer, il suffit de retirer ce qui est gênant dans cette boucle logique », mais lui-même dit « mais vous allez me changer totalement ma manière de fonctionner, donc ça revient à me charcuter le cerveau ». Mmh. Et c'est des vraies questions, hein. On n'y est pas encore, mais même avant l'IA, on est déjà sur des questions en effet du type animal. Quoi. On joue avec le cerveau de son chien. Quoi. Ça peut amener à poser des questions. Hein. C'est pas des actes légers qu'on fait aujourd'hui sur les machines. Quoi.
Non. Mais on en est un peu réduit à des sortes de tests de Voight-Kampff au quotidien. Quoi. C'est-à-dire, on sait intuitivement quand on a affaire à un objet et plus qu'un... Et quand on a affaire à plus qu'un objet.
Je ne sais pas, hein, les gens avec les animaux n'ont pas le même réglage. Il y en a beaucoup qui traitent des animaux que d'autres ne traiteraient pas en objet. Donc
est-ce qu'un témoin de Jéhovah réussirait le test de Voight-Kampff ? Voilà. Tout est là. Non, mais je veux dire, c'est...
faudrait peut-être expliquer ce que c'est.
Je crois que tout le monde est... Le test de Voight-Kampff. Levez la main, ceux qui ne savent pas.
Oui.
Ah zut.
Il me semblait bien que c'était un peu pointu.
C'est là que je me dis que je suis vieux. Le test de Voight-Kampff, c'est dans la... Si vous avez vu le film Blade Runner, dans la scène d'introduction, vous avez un test de Voight-Kampff, qui est un test comportementaliste, on va dire, pour savoir si la personne en face de soi est un robot ou un homme. Et ce sont des questions qui sont posées, un jeu de questions-réponses. Et en général, ce sont des questions qui provoquent des réponses émotionnelles. Par exemple, dans ce futur-là, les animaux ont disparu. Les animaux, l'anthropocène a eu lieu. Voilà, encore un autre truc visionnaire du film, d'ailleurs. Et donc, ce qui est animal a dans l'imaginaire collectif une très grande puissance. Et l'intervieweur dit, voilà, vous voyez une sorte de tortue qui remue sur le sol, qu'est-ce que vous faites ? Alors, tout de suite, un homme dirait, avec cet inconscient collectif qui fait que tout ce qui est animal est presque sacré et provoque en tout cas des réactions émotionnelles fortes, la réaction émotionnelle par rapport à cette question va déterminer si celui qui est en face de soi est un robot ou un homme. Et dans l'optique dickienne, et là pour le coup le film était assez dickien justement, alors qu'il ne l'est pas sur plein d'autres éléments, mais en tout cas là il l'est clairement, parce que c'est le niveau d'empathie qui détermine si on a affaire à un androïde ou à un humain. Parce qu'un androïde il ne va pas avoir de réponse émotionnelle face à la détresse d'un être qui souffre.
Et justement, avec ce test, ça permet de rebondir sur ce que vous dites tout à l'heure au niveau du mensonge de Westworld, sur les apparences. Est-ce qu'on ne peut pas projeter ce mensonge de cette fiction à la réalité? On entend de plus en plus de personnes, de technoprophètes, de transhumanistes, ou même de scientifiques, ou de philosophes, évoquer de manière très crédible l'existence d'une conscience chez les machines. Est-ce que cette illusion qu'on a à travers Westworld ne s'applique pas à cette prophétie d'une machine consciente? Denis?
Je fais partie des gens qui pensent que le fait que dans l'univers existent des machines conscientes est une évidence. C'est-à-dire que ce qui s'est passé dans la biologie pourrait bien se passer dans d'autres domaines, je ne vois pas pourquoi. Après, sur Terre précisément, est-ce qu'on est au bord aujourd'hui de l'apparition de machines conscientes? C'est une autre histoire. Mais tout le laisse plutôt à penser. On met tel moyen là-dessus qu'il va se passer des bouts de choses. Alors, jusqu'où ça ira? Est-ce qu'on arrivera à la fameuse singularité, donc à l'hyperconscience, à l'hyperintelligence qui nous dépasserait totalement? C'est une autre question après. Mais on est aujourd'hui, vu qu'il y a des milliards dépensés tous les ans à essayer de le faire, ne pas se poser la question, ce serait un peu dangereux. Je trouve même qu'on est plutôt en retard en termes de questions éthiques par rapport à l'importance des recherches pour y arriver, quoi. Enfin,
ça se fera naturellement, mais ils passeront par le stade esclave d'abord, hein, ça c'est clair.
Oui, on le voit bien.
On les a fait pour ça quand même.
Puis okay. Le stade par Spartacus, et puis là on commencera à négocier. Ou ils nous détruiront avant, ça c'est le. C'est des questions intéressantes parce qu'on sait même des questions qui ne sont pas les mêmes selon les pays. Quand on regarde la science-fiction japonaise et la science-fiction américaine, on voit un rapport plutôt philo-machine, je sais pas comment dire ça, mais philo-androïde au Japon et une véritable peur, sans doute basée en partie sur des terreurs religieuses de la machine dans une bonne partie de la culture américaine. Je veux dire, Terminator, c'est quand même une terreur absolue de la machine, comme on a rarement fait. Et à l'inverse, Ghost in the Shell, toutes ces choses-là, on voit au Japon une envie de nuance par rapport à tout ça.
Oui, parce qu'ils ont un fond animiste, je pense, oui. les Japonais, et qui fait que pour nous, la peur du robot ou de devenir robot, c'est-à-dire le cyborg, la peur du cyborg, c'est en Occident, c'est la peur de devenir une machine, c'est-à-dire rien. C'est-à-dire perdre quelque chose.
Par agresser à Pinocchio, justement.
Je pense que dans l'esprit japonais, il n'y a pas l'idée de perdre quelque chose quand on se machinise. Et la pensée transhumaniste, je pense qu'elle découle de ça. Pour eux, il n'y a pas de perte. On ne perd rien quand on s'adjoint des prothèses, quand on se numérise, quand on s'immortalise ou en tout cas quand on adopte des technologies, quand on incorpore en soi des technologies. Pour la pensée transhumaniste, on ne perd rien. Alors que dans la pensée classique occidentale, on perd quelque chose. Enfin, je pense que c'est ça la différence.
Je crois que le transhumaniste a bien compris qu'on était déjà prolongé par des outils. Tous greffés à une technologie. C'est pas parce qu'elle n'est pas directement greffée à la peau qu'elle n'est pas greffée à notre mode de vie. Combien ici pourraient envisager de se passer de leur portable pendant les 5 prochains jours? C'est-à-dire là, et on est greffé à l'électricité, on est greffé à l'eau courante, on est greffé à nos voitures, on est greffé à nos éclairages, etc. Donc de fait, c'est simplement que la technologie se rapproche de plus en plus du corps et éventuellement du cerveau. Avec les idées d'implants, de genre de choses, quoi. Mais c'est, je pense, que le transhumaniste a bien compris qu'il y avait un cycle de mécanisation qui est en route depuis très longtemps, en fait.
Voilà. C'est ce que disait William Gibson. Il disait le cyberpunk, c'est la technologie qui est passée sous la peau. Et c'est exactement ça. Et sous la peau, faut comprendre sous le crâne aussi, quoi.
Denis, on en parlait hier en parlant de cette table ronde, du fait qu'il n'existait pas de mots comme xénophobie pour parler d'une possible haine des machines. Est-ce que vous pensez qu'un terme comme celui-ci va être nécessaire bientôt, qu'une haine des machines va se développer?
Oui, en cherchant, j'ai pas trouvé le mot, en fait.
Si, si, il y a les néoludites qui sont. Alors, c'est pas la haine des machines, enfin, pas la haine, mais en tout cas, oui, un rejet du tout technologique.
Oui, mais c'est un rejet de la technologie, mais la haine des machines pragmatiques, le mot n'existe pas. À croire qu'on ne considère pas du tout aujourd'hui comme un opposant. ou un éventuel remplaceur, enfin, parce que finalement on désigne l'ennemi en général quand on a peur pour sa place. Hein, c'est,
Il y a le djihad butlérien.
Oui, on trouve à pas mal d'endroits des choses comme ça, mais
dans la SF, voilà, faut aller dans la SF ouais. pour ça.
Et ce qui prouve aujourd'hui qu'on a un rapport plutôt pacifié avec le corps des machines. Et c'est étonnant parce que elles n'ont jamais été aussi près que. Alors, on commence à voir venir ça. Par exemple, l'arrivée des IA dans tous les métiers. L'ouvrier a détesté la machine quand il a volé sa place à l'usine.
Le mot de ludisme, ça vient de là. Hein. Oui. C'est d'ailleurs saboter, le terme saboter quelque chose, ça vient de ça. Ça vient de l'époque où c'était les premières machines à fabriquer des sabots, des machines automatiques à fabriquer des sabots, et les ouvriers foutaient des sabots dedans pour saboter justement ces. Les machines automatiques en fait.
Quand les canuts ont vu arriver les ateliers qui allaient les remplacer au tissage, puis après les robots qu'on commence à fabriquer les voitures. Aujourd'hui, c'est les métiers intellectuels qui commencent à être menacés. Les IA commencent à faire mieux pour des usages moyens. Aujourd'hui, malheureusement, un journaliste pigiste de base qui se contente de prendre le flux AFP, de le transcrire pour son journal, il est déjà remplaçable quasiment par une IA. Et on sent grimper cette marée comme ça des remplacements dans des métiers qui paraissaient complètement inatteignables il y a encore 10 ans.
Les médecins. Ouais.
Les médecins, voilà, les IA qui commencent à être meilleurs en oncologie que les spécialistes du cancer, parce que l'analyse statistique a une telle puissance qu'elle finit par me permettre de mieux comprendre ce qui se passe que l'observation. Affiné d'un spécialiste au bout de 30 ans, c'est des choses très étonnantes, ça. J'ai un peu peur que le fait qu'on n'ait pas de mots aujourd'hui montre à quel point on n'est pas préparé du tout à ces choses-là et que ces haines pourraient être explosives. J'avais écrit en 98 mon premier scénario juste avant Universal War qui se passait dans un monde où l'ensemble des religions monothéistes avaient réussi à fusionner pour interdire les machines. Et avec l'idée de dire ça détruit l'humanité, comme ils le disent de l'avortement, de tas de choses comme ça, et considérant que ça allait être un tel changement qu'il était hors de question que ça continue. Et à l'époque, déjà, moi, j'étais étonné que la question ne se pose pas, parce que les bouleversements sont énormes, le remplacement est là. Qui aura une fonction sociale avec cette marée d'IA? Qui va conserver une raison sociale autre que d'aller toucher un revenu universel?
Alors, moi, j'avais traité dans mes space opéras, dans mon ensemble de mes space opéras, avec des IA, mais qui ont un certain degré de conscience, donc ça va de sprint 1 à 9, en fait, et la conscience humaine, elle est à peu près au milieu, enfin voilà, on va dire, enfin, les stats humaines, nous on est comme un peu, il y a un QI 100, il y a une sorte de QI de conscience, enfin de niveau de conscience qui est à peu près vers 6 ou 7, mais il y a des IA qui vont jusqu'à 9, et les IA, elles ont accès à des fonctions administratives ou autres, jusqu'à un certain niveau d'IA. Après, jusqu'à un certain niveau de sprit, enfin de niveau de conscience. Après, non. Quand c'est trop, en fait, elles n'y ont plus accès. En fait, c'est un peu l'inverse. Elles ont aussi un nombre de drones simultanés maximum dans lequel elles peuvent s'incarner également. Donc futur c'est déjà on a légiféré en fait.
L'équivalent des lois antitrust mais appliqué à la.
C'est un peu ça, ouais.
Oui, pour que les équilibres soient conservés, oui.
Mais en fait, c'est vrai, je suis pas le premier à avoir imaginé justement des. C'est vraiment Banks qui a vraiment révolutionné, je trouve, l'approche de l'IA. Justement avec ces manteaux qui sont des IA absolument quasiment semi-divines quoi, qui peuvent s'incarner dans des milliers de drones en même temps et soutenir des milliards de conversations simultanées avec les habitants, parce que c'est des manteaux en général qui dirigent des vaisseaux qui font plusieurs dizaines de kilomètres de long et avec des populations entières à l'intérieur et avec lesquelles ils interagissent directement et individuellement. Donc c'est des sortes d'esprits absolument quasi divin quoi. Et comme ça cette pluralité des corps Banks il a encore poussé justement le flou dans la frontière entre le corps et l'esprit, j'allais dire. Et à partir du moment où on peut s'incarner dans plein de corps en même temps, à partir du moment où on peut cloner sa conscience, et effectivement le rapport au corps aujourd'hui il est plus du tout pensé comme à l'époque d'Asimov. Il y a quelque chose qui s'est passé qui est irréversible à ce niveau-là.
Donc le corps des machines, ça pourrait bientôt être notre corps, en fait, tout bêtement.
Oui, oui. Alors, comme en plus de ça, nous, on devient paramétrable, selon la SF, selon Egan. Voilà, tout ça se rejoint. Effectivement, on est dans, vraiment réellement dans une convergence qui permet de poser justement des bases éthiques. Justement.
On avait très envie de laisser un moment assez large pour les questions. Il nous reste 20 minutes, c'est tout pile, c'est parfait. Donc je vous propose qu'on passe aux questions dès maintenant.
J'ai entendu récemment, pendant une interview d'un chercheur qui travaille en intelligence artificielle, un argument qui m'a beaucoup marqué, et j'aurais voulu savoir ce que vous en pensiez. C'était par rapport à l'existence possible de la conscience tant des robots ou des intelligences artificielles dans le futur. Et le chercheur pensait que ce serait impossible, et son argument c'était que par exemple, si on simule dans un ordinateur le système solaire, ça ne crée pas de la gravité. C'est-à-dire que la pièce ne se met pas à collapser en direction de l'ordinateur parce qu'on a simulé les équations de la gravité dans l'ordinateur. Et par analogie, il disait que même si on essayait de programmer la conscience, ça ne fera pas qu'un ordinateur conscient. C'est-à-dire que la simulation de la conscience n'est pas de la conscience. Et j'aurais voulu bien savoir ce que vous pensez de cet argument.
Moi, j'ai tendance à penser que la conscience, elle apparaît à partir d'un certain niveau d'agitation et que ce n'est pas nous qui allons la programmer, qu'elle sera là. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette impression en faisant une recherche Google à des moments d'avoir en face de vous une réponse mais remarquablement intelligente, et c'est pas les algorithmes de Google, c'est les algorithmes plus un certain hasard de sortie plus le fait que des pages qui n'ont rien à voir sortent côte à côte et ça donne une information supplémentaire que là nous on crée, etc. Parfois moi je me demande si Google n'est pas déjà vraiment intelligent et il peut y avoir même des niveaux de conscience qu'on ne perçoit pas. Parce que faudrait-il qu'ils aient le même genre de conscience que nous, déjà, ces organismes préconscients. Vous voyez, hein, jusqu'à il n'y a pas longtemps, on pensait que les femmes n'avaient pas d'âme. Hein, donc, il y a quand même, chez l'humain, une capacité à se tromper qui est assez prodigieuse.
Oui, et puis il faut se méfier de nous-mêmes. C'est pas parce qu'on... Il faut se méfier de nous-mêmes dans tous les... Enfin, dans la reconnaissance... de ce qu'on croit être de la conscience comme l'inverse. Voilà. Faut...
De l'anthropomorphisme qu'on plaque sur tout et qu'on oublie et toutes ces choses qu'on ne voit pas à côté. Oui,
voilà. Mais les tests, encore une fois, en fait, il faut expérimenter. Et les tests s'affinent. Par exemple, le test Voigtkampf, il a été expérimenté. Alors, il ne marche pas du tout. C'est un truc, le test Voigtkampf ne marche pas.
Déjà, il classe tous les nazis en machine.
Mais il y a, mais il y a d'autres tests qui fonctionnent plutôt bien, en fait. Donc, il n'y a pas de réponse, en fait.
On verra.
Ça se déterminera au moment où ça apparaîtra, en fait.
La manière de concevoir les IA a tellement changé en deux décennies. On a cru qu'on allait simuler la conscience. Ils ont laissé tomber ça depuis un bout de temps. Aujourd'hui, ils avancent sur... certains copient la vie, d'autres, au contraire, font des systèmes qui sont censés générer de l'aléatoire complètement pour voir ce qui va se passer dans ces milieux aléatoires et tout. On a complètement abandonné l'idée aujourd'hui de copier un cerveau. Ça, c'est sûr.
Oui, disons les IA fortes, c'est-à-dire les IA qui seraient des simili humains, ça, on peut dire que c'est à peu près réglé. Mais il y a plein de façons d'amener à la conscience, en fait.
Donc, justement, ma question, c'est un peu la continuité. Beaucoup de gens qui font du deep learning aujourd'hui disent on met en place les choses, on fait de l'apprentissage à la machine et on ne sait pas comment ça se passe dedans, mais à la fin la machine décide. Alors est-ce que c'est pas ça le début de la conscience? Et si la machine commençait à avoir la conscience, est-ce qu'on s'en rendrait compte finalement pas trop tard, par exemple, avant qu'elle nous envahisse?
Un américain. Après on prendra un japonais. C'est difficile. Bah... C'est toujours la peur. C'est la question du progrès là, qui est toujours la même. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on s'aventure dans l'inconnu, on risque de tout détruire et on peut tout y gagner. Enfin, c'est ça revient à une question qu'on s'est posée aux Utopiales il y a pas mal d'années. On s'apercevait que toutes les conférences se terminaient toujours de manière dépressive. On va tous mourir climatiquement, biologiquement, machin, quoi que ce soit. Et on a tous à un moment dit, faut qu'on arrête ça parce qu'on est en train de traduire une peur du progrès qui n'est pas le but du tout de la SF. Il faut qu'on y aille, mais il faut qu'on réfléchisse beaucoup en y allant. Voilà, on doit accompagner ça. C'est pour ça que tout à l'heure je m'inquiétais sur quelques retards. J'avais les sentiments qu'on avait des retards dans la pensée par rapport à la réalité. C'est à ça qu'on doit veiller, je pense. Il est très important d'amener de la conscience justement sur toutes ces questions-là. Mais faut pas en avoir peur par principe, parce qu'autrement arrêtons tout de suite, figeons le monde, on s'arrête à iOS 12, Windows 10, et puis on arrête tout, quoi. Voilà, quoi.
Mais en tout cas, c'est super stimulant. Mais justement, parce que je trouve que l'IA est nous interroge sur le corps directement. Parce que ce serait nous, on est une intelligence qui est totalement issue du corps. On est intensément organique dans nos façons de penser, dans nos... Ça envahit même...
Système automatique, dans tout.
Mais même les processus cérébraux les plus nobles, en fait. Et de faire émerger une conscience de quelque chose qui n'a pas de corps, pas de corps organique en tout cas, c'est quelque chose de enfin moi je sais que c'est ça qui me fait triper, quoi.
Qui a des sens totalement différents.
Voilà, c'est l'altérité en fait qui est intéressant dans ce type de conscience.
On va créer des extraterrestres.
Répliquer un humain n'a pas vraiment d'intérêt, en fait.
On va créer des extraterrestres. On va peut-être avoir du mal à aller les visiter ailleurs, mais on va peut-être les créer sur Terre.
Exactement, plutôt sympa, quoi. C'est ça. Ouais.
On fera des montagnes de purée, tout ça.
Non, je sais plus quel bouquin. Je pense que c'était pas neuromancien. À toute fin, il y a un dialogue entre une IA et puis un humain. En fait, l'IA est en train de dire à l'humain. Je sais plus si c'était dans Câblé ou même dans Neuromancien. Il dit au personnage, ah ouais, en fait, j'ai déjà dialogué avec une IA extraterrestre. On est en cours de dialogue avec une IA extraterrestre. Et donc, effectivement, les communications galactiques, ce sera probablement en tria, juste parce que les distances sont tellement grandes que la notion de temps, elle est plus organique à ce niveau-là d'attente et de délai. C'est un temps qui est... Le temps cosmique est un temps machinique, d'une certaine manière.
Ce qu'on peut voir dans 2001, hein, le monolithe est probablement la machine ultime.
Oui, c'est une machine, d'ailleurs.
Capable de naviguer dans l'espace. Et
d'ailleurs, Sentinel, dans la nouvelle originelle de Clark, c'est une machine, c'est une sonde. Donc, c'est une machine.
Oui, j'avais une question. Quand vous parliez d'interaction avec des robots, etc. Je ne sais pas si vous avez vu, Google, sur son assistant, avait montré une fonctionnalité où l'assistant pouvait passer des coups de fil tout seul et prendre des rendez-vous. Ouais. Et en tout cas, la vidéo était assez bluffante, c'est-à-dire qu'il disait, est-ce que vous êtes disponible à 10h ? Non, donc l'assistant fait, ah oui, attendez, je réfléchis, 10h30. Et est-ce que dans un monde, en tout cas pour les interactions virtuelles, par exemple les mails, ou... Quand on parle des IA qui prennent le rôle d'un docteur, etc., est-ce qu'on ne risque pas d'aller dans un monde où, par exemple, quand on doit prendre un rendez-vous, quand on doit décrocher le téléphone, appeler, par exemple, l'administration, etc., on ne tombera pas sur des systèmes virtuels et sans s'en rendre compte ?
Oui, bah sûrement.
Ouais. Oui, on y va. Ouais.
Il y aura probablement des... Mais en même temps, il y aura sûrement des... Enfin, la société créera des pare-feux à ça, enfin, s'adaptera. Sur ce truc-là. Je crois que c'était dans Exterminator 17, la BD de... Oui. Je crois que les androïdes ont un grand A tatoué, oui, sur le front, pour indiquer que c'est des androïdes, qui est pas le moindre truc. Mais sinon, face à l'envahissement, par exemple, de la première génération de portables, où tout le monde avait le nez collé dans la rue sur son portable, maintenant, c'est fini, ça. Les gens se sont adaptés.
Il y a encore beaucoup de gens qui parlent tout seul dans la rue. Hein.
Ah ouais, oui, alors peut-être que ça choque moins, je ne sais pas.
Oui,
ouais.
Je crois qu'on s'habitue. Oui.
Peut-être, zut, mauvais exemple.
Mais oui, on va y aller, et en plus, on va trouver ça bien. C'est tout ce qui nous facilite la vie, on l'adopte, et on a accepté depuis 2-3 décennies de détruire des parts complètes de notre liberté au profit de confort. Hein. On fait toujours ça. Ce qui est intéressant, c'est de voir si le bilan global de tous ces changements nous emmène à la catastrophe ou nous emmène vers l'avenir.
Mais on retombe en même temps, comment dire, on retombe sur ce qu'on a déjà vu, c'est-à-dire que finalement, quelqu'un finalement, qui va me répondre, une voix qui va me répondre, juste pour me donner un rendez-vous, peut être fait par un robot. Je veux dire, c'est ça, parce que c'est une tâche robotique. en fait, de donner, de fixer un rendez-vous et de juste cocher une case pour que machin il aille là. De toute façon, c'est un truc de robot à la base.
Si cette personne est, par exemple, si c'est un fonctionnaire et qu'il est déplacé à aider les gens réellement dans des services sociaux, c'est plutôt une victoire pour la société. Quoi.
Donc, ce qui risque de se passer, c'est que petit à petit, ce qu'on considérera comme juste les tâches nobles, les tâches humaines, ne seront plus que les tâches, par exemple, créatives, ou qu'on dit créatives, et tout le reste étant automatisable et sera automatisé. Et ça, on va vers ça, clairement. Encore une fois, hein, c'est la société qui déterminera, en fonction de juste pour faire vivre les gens en les faisant travailler, ce qui déterminera quelle tâche peut être dévolue à un robot et quelle tâche doit rester strictement humaine, par exemple.
La question du revenu universel n'est pas arrivée par hasard en ce moment dans la discussion. C'est la grande question aujourd'hui. Pourra-t-on donner du travail à tout le monde qui arrive avec ces technologies-là ? C'est assez inquiétant, mais c'est quand même le rêve de l'humanité de débarrasser les trois quarts des hommes des tâches inintéressantes. Donc on ne va pas non plus faire une croix sur tout ça, parce qu'il faut qu'on trouve un sens à l'humanité, éventuellement, même avec moins de travail, donc plus de loisirs. Est-ce que le loisir ne doit pas gagner en intérêt, en dignité, en profit pour l'humanité, etc. Enfin, je pense qu'il faut regarder tout ça quand même. C'est vrai que ça fout la trouille. Hein. Je ne suis pas le dernier à des moments à me dire « Oh mon Dieu, tout ça va être balayé d'un coup. » Mais il faut qu'on pense à tous les gains qu'on va faire avec ça. Ce qui est important, c'est de maintenir une pression pour continuer à aider les gens à s'entraider, à se voir, etc. Pas à maintenir obligatoirement quelqu'un à une caisse de supermarché ou à répondre au téléphone. Vous voyez, c'est pas... Même si dans l'absolu, les gens menacés dans leur emploi, je peux comprendre absolument leur panique. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on repère tous les endroits où ça arrive et qu'on accompagne tous ces gens-là vers des métiers plus intéressants, justement. Quoi.
Mais si les machines arrivent à la conscience, peut-être qu'elles aussi, elles auront envie de faire autre chose que des tâches robotiques.
Oui, c'est le Spartacus, ce que je disais. Ouais. Ouais. On va déjà faire la guerre, parce que c'est quand même vachement fun. L'humanité, on a adoré ça pendant des millénaires. Donc... Non, mais il y a ce risque-là. Hein. Faut pas. On a vraiment aimé la guerre. Hein. Faut pas jamais oublier ce genre de choses. Hein. À un moment, on a tellement fait de dégâts qu'on a commencé à se dégoûter nous-mêmes. Mais peut-être qu'elles passeront par ce stade-là, etc. En espérant qu'elles le feront entre elles. Hein.
Non, puis on a une capacité à oublier qui est remarquable. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne revienne pas.
Oui. Voilà. Pour revenir, comme vous disiez, à peut-être une vision un peu plus optimiste. Quand on disait tout à l'heure que il faudra, c'est là. qu'il faudra forcément inventer un terme pour la haine envers les robots et que forcément on en fera des esclaves et que ce sera terrible et tout. Comme l'ouverture un peu de la description de la conférence était est-ce que c'est mal d'insulter son ordinateur, on a aussi une capacité à avoir de l'affection, un grand attachement pour nos objets, notamment technologiques, avec tout le temps qu'on passe dessus. Voilà, de dire mon ordinateur, je l'adore, c'est mon meilleur ami, il est super et tout. Et d'avoir une reluctance, voilà, à être méchant, entre guillemets, avec des objets. Donc, est-ce qu'on ne peut pas se dire qu'aussi, on aura une relation positive, en fait, avec ces nouvelles formes de conscience, et que, voilà, on peut avoir, être optimiste et se dire qu'on arrivera à cohabiter avec eux, quoi.
Je pense que la génération pyjama Pikachu, elle n'aura qu'un problème à être gentille avec les machines. Hein. Mais tout le monde n'est pas constitué comme ça. Il y a les forces d'oppression, elles sont aussi dans l'humanité. Quand je disais qu'il fallait trouver un mot, ça allait être pour se battre contre ces choses-là. Hein. Pas évidemment pour le plaisir de découvrir encore un vice chez l'homme. Mais quand on nomme le spécisme, c'est bien pour défendre les animaux. Quand on a nommé le racisme, c'est bien pour se battre contre ça. Voilà, il va falloir à un moment ou à un autre probablement qu'on se dise que ça va être aussi un enjeu, qu'il y aura des gens qui vont martyriser des machines. À moins que l'humanité évolue aussi vite que les machines, mais le rêve de Star Trek pour y revenir, d'une humanité sans argent, sans pulsion, où tout le monde s'accomplit, on n'y est pas encore. Donc les machines vont être atteintes des niveaux de conscience probablement avant que nous, on soit à un niveau de conscience qui fait qu'on se comporte bien avec elles. Donc toutes ces questions vont se poser. Je trouve aujourd'hui que moi, je suis étonné qu'on ne les pose jamais. C'est-à-dire que c'est... on ne peut pas se contenter aujourd'hui de dire ça ne va pas arriver, parce que ça va arriver puisqu'on le fait avec tout le reste. On va être esclavagiste, on va être colonialiste, on va refaire tout ça, tout ce cycle-là, et on va le faire parce que l'économie va nous y pousser, déjà, on le sait, parce que notre faiblesse personnelle va nous y pousser. Je veux dire, c'est quand même génial d'avoir quelqu'un qui fait le ménage à sa place, etc., etc. Donc on doit commencer à en discuter maintenant pour accompagner tout ça, je pense. On ne peut pas faire comme si ces questions ne vont pas se poser. Mais ce n'est pas pessimiste. Hein. C'est au contraire, je pense que si on se pose des questions maintenant, on fera le moins de bêtises possible. On en fera. Mais le but est de se poser justement les questions, en termes de... On sera obligatoirement des ordures, mais il y aura des ordures parmi nous. Ne doutons pas de ça. Et essayons d'avoir des positions éthiques, morales, des réflexions sur tout ça, qui soient le plus près possible à ça. C'est un de nos rôles, je pense, dans la SF, toujours, de préparer ce terrain-là. Que c'est pratique, là, l'air de rien, on passe notre temps à sortir des films que tout le monde a vus, des réflexions de romans et tout. Ça permet de bien faire avancer les débats, tout ce travail de préparatoire qu'on fait. Voilà. Que ce soit en faisant de la SF pessimiste ou optimiste, les deux sont permettent de nourrir la réflexion. Quoi.
Il y a eu une question intéressante qui a été posée dans le roman La fille automate. C'est celle de l'utilisation de machines en tant que partenaire sexuel. Dans un rapport aussi intime, est-ce que notre relation à la machine doit avoir tout le respect qu'on doit à un être humain, ou est-ce qu'on peut le considérer comme une poupée gonflable ?
J'ai failli y aller, puis je me suis dit c'est dangereux comme terrain, va rater. Bon. À l'ère du MeToo.
Tout dépend. Alors dans la fille automate, c'est pas tout à fait une machine. Hein, c'est plutôt une femme qui a été génétiquement designée, on va dire. Donc elle a des pores plus petits de peau pour que sa peau soit lisse. Donc elle a pas le statut d'humain, mais enfin, légalement, elle n'est pas humaine, mais elle est humaine parce qu'elle vient.
Elle est consciente ou
Oui, elle est totalement consciente. Ouais.
Ah oui, donc c'est un esclave.
C'est un esclave sexuel, ouais, oui. Totalement. Mais là, on est juste, j'allais dire, c'est une néo-esclave, on va dire. Donc, voilà. Quoi. Donc, pour nous, il n'y a pas de. La question ne se pose même pas, en fait.
On s'approche du point Godwin parce que je vais dire.
Il n'y a pas de problème, je veux dire, dans le sens qu'elle est humaine. Voilà. Dans Westworld, par exemple, là pour le coup, non. Là, se pose réellement la question pour le coup. Dans La fille automate, non, je pense pas, parce que c'est un être organique qui a de l'ADN humain. C'est juste qu'il a été redesigné, quoi. Ouais.
Parce que dans le cadre d'une machine qui serait donc une hyper poupée gonflable, mais qui serait programmée pour avoir des réactions quand même assez riches. Pour qu'il y ait même un échange, etc. Je disais qu'on allait vers un point Godwin parce qu'on va arriver à des niveaux de questions. Est-ce que faire un amour avec un animal, pour l'animal, c'est bien ou c'est pas bien, quoi ? Vous voyez, déjà, même avant qu'il y ait de la pleine conscience, la question se pose déjà avec la zoophilie, par exemple, hein, aujourd'hui. Je crois qu'on va s'enfoncer dans les... La séance sur la pornographie commencera seulement à 23h. Mais donc c'est des questions qu'il va falloir se poser inévitablement.
Par exemple, pour Descartes, les animaux étant des machines, on pouvait tout à fait se permettre, et lui-même s'est permis de faire de la vivisection. Ça rentre tout à fait dans les débats éthiques. À partir du moment où on a affaire à une machine, il n'y a pas de problème éthique. Enfin, machine, c'est-à-dire pas de conscience du tout. Ce sont des objets et donc il n'y a pas de problème.
Oui, avec un tournevis, bon, il ne va pas se plaindre a priori. Donc,
voilà.
On peut faire encore une toute petite question, je pense. Une question. On a commencé un petit peu tard.
Justement, parlant d'intelligence artificielle, des robots, est-ce qu'il n'existerait pas genre une stupidité artificielle une stupidité artificielle, par exemple, le robot, il est programmé pour devenir stupide. Je sais pas, il y a des gens, le robot, il va être comme un trou de balle, un imbécile, en fait, va faire n'importe quoi, des trucs mauvais. Est-ce que ça peut arriver en science-fiction, un scénario où il y a des robots complètement stupides, imbéciles ?
Là, il y en a plein. Hein. Dans H2G2, il y a le robot dépressif, là, Enfin, ouais, non, évidemment, il y en a plein. En plus de ça, la SF et l'humour font bon ménage, en fait, hein, parce que vu le nombre d'auteurs, quand même, de Frédéric Braun à Rudy Rucker, en passant par Douglas Adams, enfin, tiens, il y en a plein. Hein.
Et les robots servent souvent à l'humour, hein, même dans Star Wars, etc., on le voit. C'est souvent des personnages qui sont des. Qui servent à transmettre de l'humour contrairement aux apparences, quoi, parce que ils mettent les situations sont assez facilement ridicules,
Ouais, et même dans des bouquins sérieux, hein, d'ailleurs. Dans le problème de Turing, il y a quelques scènes marrantes avec l'IA.
Dans les méta-barons de Jodorowsky, c'est même une plaie, quoi. Les robots sont là pour le comique. Il y a un moment, on a envie d'effacer les robots pour que l'histoire avance, quoi. C'est...
Donc, ouais.
Bon, peut-être que on va devoir du coup s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir suivi cette table ronde.
Merci à vous.